Sur Radio Mayuri Campus, ravi de vous retrouver. Nous allons parler musique aujourd'hui dans cette émission, puisque j'accueille Monsieur Émile Lanoux qui publie son troisième ouvrage. Monsieur Lanoux, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, c'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à moi.
Alors, le premier ouvrage, vous l'avez publié en 1998, cela ne nous rajeunit pas, tout cela, est intitulé « Un recueil, en tout cas chant de Guyane à l'usage des écoliers », c'était un recueil de chants. Et en 2001, vous avez publié « Itinéraire de la musique instrumentale en Guyane ». Et puis, le troisième ouvrage, c'est un essai, intitulé « Différents aspects de la musique guyanaise, la musique créole populaire ». Peut-être on va commencer par faire de plus amples connaissances avec vous, Monsieur Lanoux. On imagine que vous êtes un mélomane, un musicien, un amoureux de la musique d'une manière générale.
Le terme de... Excusez-moi. Le terme de mélomane me suffit, parce qu'il englobe aussi bien celui qui aime et celui qui la pratique de façon amateur. Donc, je me retrouve dans cette définition-là.
D'accord. On voit qu'il y a une continuité dans vos œuvres de 2001 à aujourd'hui. Est-ce que c'était nécessaire pour le public? Il y avait une information complémentaire que vous souhaitiez apporter. Qu'est-ce qui change entre... On parlera plus en détail tout à l'heure du troisième ouvrage, mais pourquoi un autre livre, je dirais, sur la musique?
Alors, j'aime à dire que c'est une déformation professionnelle. J'ai été enseignant, instituteur, pendant de nombreuses années, et j'ai toujours eu ce besoin de communiquer, de transmettre, n'est-ce pas? Et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes vivant en Guyane ne connaissent pas la Guyane, et de surcroît, ne connaissent pas la musique guyanaise. Donc, il était nécessaire, après avoir publié en 2001 le premier ouvrage qui, lui, se contentait ou se cantonnait à parler des anciens musiciens des années entre 40 et 50, il était nécessaire, avec la nouvelle génération, n'est-ce pas, qui arrive en ce moment, de faire à peu près le même travail, mais peut-être même d'aller en profondeur, parce que trop souvent, quand on parle de la musique guyanaise, on se limite à parler d'un artiste ou à comparer les artistes entre eux. Dans cet ouvrage, j'ai voulu aller un tout petit peu plus loin. J'ai voulu faire des analyses, essayer d'expliquer, n'est-ce pas, comment fonctionne la musique guyanaise, comment fonctionnent certains artistes, n'est-ce pas. Donc, le but de ce second ouvrage, c'était de mettre à la portée de chacun les grands principes qui guident la musique guyanaise.
Un ouvrage de 452 pages qui a nécessité, j'imagine, énormément de recherches, de collectes d'informations.
Absolument. Mais tout cela s'est fait, si on peut dire, avec bonne humeur, parce que je n'avais aucune pression. Il faut bien comprendre que personne ne m'a demandé de faire ce travail. Je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire. Et je dirais que je l'ai fait par militantisme. Et je précise bien en préface d'ouvrage que c'est le point de vue d'un musicien militant, n'est-ce pas? Je crois qu'à un certain moment, il ne faut pas avoir peur de prendre les décisions qui s'imposent, de dire ce qu'il faut, au risque de se faire des ennemis supplémentaires. Mais il ne faut plus considérer la musique comme un passe-temps. La musique, c'est une arme. C'est une arme que certains politiques savent utiliser, savent mettre à leur disposition.
Un ouvrage préfacé par Yannick Lanoux, c'est quelqu'un de votre famille?
Alors c'est plutôt la préface. Alors Yannick Lanoux, en fait, il a fait la quatrième de couverture. La préface a été faite par et Patrice Lanoux. Alors effectivement, l'autre particularité de cet ouvrage, la première, c'est que c'est un ouvrage qui a été conçu en Guyane, n'est-ce pas? Bien entendu, les textes ont été écrits en Guyane, mais j'ai travaillé avec un graphiste qui s'appelle Wesley Dupré, et c'est lui qui a fait la mise en page de l'ouvrage, qui a installé les images. En fin de compte, Il n'y a que l'impression qui a été faite en France, n'est-ce pas? Et donc, comme vous vous en doutez, je suis amateur de musique, donc mes enfants sont également amateurs de musique. Et même, disons qu'ils ont une autre vision de la musique, une vision plus scientifique, n'est-ce pas? Puisque mon fils, sans vouloir le vanter, il n'est pas le seul à l'avoir fait, a étudié la musique à Montpellier. Il en est sorti avec des titres et il enseigne aujourd'hui la musique. En plus de ce côté pratique des choses, ce côté théorique du moins des choses, il est musicien dans l'orchestre Les Mécènes. Donc, je ne pouvais pas trouver mieux, d'autant plus qu'on discute musique au quotidien.
Oui.
Donc, je ne pouvais pas trouver mieux pour me faire une préface. Et dans le même ordre d'idées, Yannick également, c'est un musicien, c'est un clarinettiste. Bon, il a laissé tomber la clarinette. Mais ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent, puisque je vous assure que nous avons souvent des discussions, et ces discussions ne sont jamais, pas jamais, mais ne sont pas toujours en ma faveur.
Oui.
Donc, j'avais de quoi présenter l'ouvrage.
Quel est le constat qui vous a amené à écrire cet ouvrage, Monsieur Lanoux?
Mais c'est bien ce que je vous disais au début, il fallait mettre à la portée de chacun les grands principes qui guident la musique galaise. En fait, vous l'avez remarqué comme moi, depuis quelque temps, il y a une campagne qui est menée, alors peut-être sur votre radio. Alors, je dois dire que j'ai découvert, c'est dommage, hein, j'ai découvert votre radio il n'y a pas longtemps.
Ah,
bah écoutez. Et j'ai apprécié parce qu'il me semble qu'elle est différente des autres. Il faudrait que je l'écoute davantage. Ben juste pour vous dire que depuis quelque temps, sur les radios, vous savez, il y a ces émissions où on donne la parole aux auditeurs. Et quand ils sont chez eux, derrière leur téléphone, donc la parole est libre et parfois on entend des choses aberrantes. Donc pendant quelque temps, là, depuis quelque temps, il y a une espèce de campagne de dénigrement contre la Guyane. On s'interroge, qui est Guyanais, il n'y a pas de musique guyanaise, on n'est pas Guyanais. Alors moi, ça m'exaspère.
Sur l'identité?
Voilà, ça m'exaspère. Et moi, je n'ai pas voulu prendre mon téléphone pour envenimer les choses, parce que ce sont des discussions stériles, inutiles, qui ne servent à rien.
Peut-être
qu'ils ne font que diviser, parce que la Guyane n'a pas besoin de ça en ce moment.
Peut-être qu'ils font de l'audience pour les pour
mais voilà, et ça continue. Non, la Guyane n'a pas besoin de ça. La Guyane a besoin d'unité, elle a besoin de vivre ensemble. Le grand défi qui s'impose à la Guyane aujourd'hui, c'est le vivre ensemble. Donc il ne faut pas rentrer dans cette considération de qui est ceci, qui n'est pas ceci, mon père est ceci. Bon, alors voilà.
De division.
Voilà, tout ça. Tout cela pour dire qu'il était nécessaire de partir d'un postulat qui est simple. Si il existe une musique guyanaise, il existe un peuple guyanais. C'était ça la démonstration à faire. C'est démontrer qu'il existe une musique guyanaise. Donc si il existe une musique guyanaise, forcément, il existe un peuple guyanais.
Mais vous dites également que cette musique ne revendique pas d'identité propre à l'instar d'autres musiques du monde. Que voulez-vous dire par là?
Oui. Alors, je ne sais pas de quelle partie du texte vous parlez. Parce que dans mon travail, je distingue bien les trois spécificités de la musique. Et d'ailleurs, c'est une des particularités de la musique guyanaise, c'est une musique tripartite. C'est-à-dire qu'il y a une partie traditionnelle, une partie populaire et une partie savante. Alors, ce que j'appelle la partie savante, n'est-ce pas, c'est ce que l'on appelle communément la musique classique. Alors, je n'aime pas trop le terme classique, parce que la musique classique correspond à la période classique. Cette période qui se situe entre la période baroque et la période romantique, dans laquelle des musiciens tels que Mozart, Beethoven et Haydn se sont faits on produit des œuvres particulières. Donc, je préfère, moi, parler de musique savante. Et en fait, cette musique-là, elle est vraiment savante dans la mesure où les compositeurs ont voulu vraiment montrer la différence entre la musique populaire et la musique traditionnelle, qui n'étaient pas des musiques écrites à l'époque. Aujourd'hui, la musique populaire s'écrit, mais à l'époque, la musique populaire ne s'écrivait pas. Et c'était bien ça, le côté savant de la musique. C'est le fait de pouvoir écrire en tenant compte de toutes les règles qui existe en musique, les règles d'harmonie, ainsi de suite. Donc, la musique guyanaise, donc, qui est une musique tripartite, sa partie traditionnelle est incontestable. La partie traditionnelle de la musique guyanaise, C'est cette partie qui est née, qui a été façonnée par la colonisation et l'esclavage, n'est-ce pas? Pendant cette période, il y a trois populations qui se sont retrouvées particulièrement gagnées. Il y en a quatre, bien sûr, avec les colons. C'est-à-dire, dans l'ordre, on a les Amérindiens, les Créoles, les Bushinengues. Et bien entendu, tout cela sous l'œil du colon, en quelque sorte. Cette musique-là, c'est elle la musique guyanaise, n'est-ce pas? La musique d'un peuple résulte de ses traditions. C'est cette musique-là qui a été transmise d'année en année par les anciens et que nous avons hérité dans un état. Personne aujourd'hui n'est capable de dire que si la musique que nous avons héritée, quelle perte elle a eue, n'est-ce pas? Parce qu'on sait très bien que les transmissions ne se font jamais sans perte. Malgré tout, nous avons reçu de nos ancêtres une musique que nous essayons aujourd'hui de faire fructurer. Cette musique-là, elle a son identité. On ne peut pas se tromper. Si je prends aussi bien, si vous prenez un samboula ou si vous prenez un kaseka, vous n'allez pas vous retrouver en Martinique, ni en Guadeloupe, ni à La Réunion. N'est-ce pas? Donc cette musique traditionnelle-là, c'est vraiment l'identité guyanaise. Et vous avez bien remarqué que je vous ai cité trois peuples, en quelque sorte. Les Amérindiens, les Créoles et les Bushinengues. Et c'est ça, la seconde particularité de la musique guyanaise. Enfin, sans vouloir entrer dans une définition, on peut dire donc que la musique guyanaise se présente sous deux aspects. Alors, le premier aspect dont je viens de parler, c'est-à-dire que c'est une musique tripartite, avec une partie, je me répète, une partie traditionnelle, une partie populaire et une partie savante. Mais c'est également une musique multiculturelle. Et c'est ça la particularité de la musique guyanaise. Et on revient à ce que je vous disais il y a un instant. On a besoin de vivre ensemble. Parce que ce n'est pas évident, n'est-ce pas, que des cultures, n'est-ce pas, vous le constatez comme moi, aujourd'hui encore, ces différentes cultures ne vivent pas ensemble, elles vivent l'une à côté de l'autre. L'une observe l'autre, n'est-ce pas? Or, ce qui nous attend, comme je l'ai dit un instant, eh bien, c'est qu'on vive ensemble. Et c'est ça la particularité de la musique guyanaise. Elle a donc cette identité. Et dans ce que j'ai défini, moi, alors que je vous dise également, la nécessité de faire cet ouvrage également réside dans le fait que il me paraissait nécessaire de mettre en place un vocabulaire pour mieux préciser, mieux déterminer la musique guyanaise. Et dans ce vocabulaire, j'ai mis en place un concept que j'ai appelé la trilogie de la musique guyanaise. Et bien cette trilogie, elle est là. Cette trilogie, n'est-ce pas, qui est représentée par les Amérindiens, les Créoles et les Bushinengues. Et dans cette trilogie, ces trois populations-là arrivent avec leurs particularités. Il n'est pas question de supprimer telle particularité de l'une au profit de l'autre. Mettre en avant une culture par rapport à l'autre. Non, les trois cultures arrivent avec tout ce qu'elles ont et gardent ce qu'elles ont. Elles ont personnellement leur langue, elles ont leur chant, elles ont leur tambour. Et c'est cet ensemble-là qu'on met bout à bout pour former la musique traditionnelle guyanaise. Et vous remarquerez que j'utilise toujours le singulier, la musique guyanaise. Alors c'est encore très important, ça fait partie en fait des concepts que j'ai mis en place, ça n'a rien de révolutionnaire, ça relève simplement d'une logique. Beaucoup de personnes désignent la musique guyanaise au pluriel. On parle souvent des musiques guyanaises, des cultures guyanaises. Moi, je me lève contre ce pluriel. Je reviens à ce que je disais précédemment. Pour moi, le pluriel entraîne la division. On n'a pas besoin de division. Le « la » englobe tout le monde. La musique guyanaise, et dans la musique guyanaise, on retrouve la musique des Bushinengues, la musique des Indiens, la musique des Créoles. Moi, c'est le concept que je veux défendre, que l'on comprenne bien, une fois de plus, qu'on ne peut pas faire autrement que de vivre ensemble.
On constate également, Monsieur Lanou, qu'il y a une remise en question permanente autour de cette musique, ce qui crée parfois un flou artistique savamment orchestré. Alors, est-ce que justement ces différents apports qui créent cela, le fait que cette musique soit partagée par tous ses composants finalement.
Oui, et là vous avez utilisé un mot-clé, partagé. La musique guyanaise, oui, c'est une musique, n'est-ce pas, qui se partage. C'est une musique à partager, elle se partage, n'est-ce pas. Et on revient encore au principe de la trilogie, n'est-ce pas. On pourrait croire que c'est une utopie. Vu la situation actuelle, les Amérindiens resteront Amérindiens, les Créoles resteront Créoles, les Bouchinengues resteront Bouchinengues. Non, les choses avancent lentement, et ça vaut mieux que ça avance lentement. On a le temps de s'observer, on a le temps de rectifier tout ce qui ne va pas. Les choses avancent, et j'en veux pour preuve le groupe Senouka. Le groupe Senouka, c'est une parfaite illustration de ce que sera la musique guyanaise de demain. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des jeunes. Il faut bien comprendre que la révolution sera toujours faite par des jeunes. À ma connaissance, je ne sais pas, je ne peux pas prétendre tout savoir et tout connaître. Je n'ai pas ma connaissance de révolution faite par des gens d'un certain âge, pour ne pas dire des vieux. Ce sont toujours les jeunes qui arrivent avec leur nouvelle mentalité, qui refusent ce qu'on leur impose et qui veulent justement mettre en place leurs propres idées. Donc le groupe Senouka est en train de faire une révolution pacifique en présentant, en mettant en évidence les langues régionales. Alors jusqu'à maintenant, en Guyane, particulièrement et ailleurs, on a souvent mis en avant les langues nationales, c'est-à-dire le français, l'anglais, l'espagnol, tout ce qu'on veut. Et là, eh bien, on a des jeunes qui ont décidé de revendiquer leur langue régionale.
Est-ce qu'ils chantent en créole guyanais? Pas toujours. Parfois, c'est du créole antillais.
Voilà, c'est parce que... Alors, il y a une chose, c'est que dans ce cas précis que je viens de citer, le groupe Senouka, vous n'avez pas de créole proprement dit. À l'origine, Senouka, c'était un quatuor. Vous aviez un Amérindien, vous avez un Bouchinengue, vous avez un Portugais. Et puis, le quatrième, en fait, je n'arrive pas à bien le situer, hindou, voilà. On n'avait pas de créole. Mais il faut savoir une chose, c'est pas évident de le dire, on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais malgré tout, le créole, même si ce n'est pas la langue qui fait l'unanimité en Guyane, mais c'est une langue qui est parlée, n'est-ce pas? Peut-être...
Par l'ensemble des communautés.
Voilà, c'est ça, on se comprend.
Tout à fait.
Donc, le but de ces jeunes-là, c'était justement de s'exprimer en mettant en avant leur langue, n'est-ce pas? Et il faut bien comprendre que la notion de langue a toujours existé dans la musique guyanaise. Parce que vous avez toujours avec les jeunes, tous ces jeunes qui font dancehall et qui sont épris de musique jamaïcaine, ont toujours eu cette habitude d'utiliser l'anglais. Alors, on peut remettre en question la qualité littéraire ou littérale de cette langue, mais enfin, ils ont toujours employé dans un discours ce mélange, une espèce de d'hybridation où on a un mot français sur deux mots, après il y a deux mots en anglais, un mot créole, voilà. Tandis que Senouka vient avec un autre discours. Il vient avec un discours, n'est-ce pas, dans lequel il s'exprime du début jusqu'à la fin avec une seule et même langue, n'est-ce pas? Et c'est ça la particularité. C'est ça la particularité. Et ce qui fait que, eh bien, ce discours a séduit et il y a d'autres artistes qui ont emprunté la même direction. Le dernier exemple que je peux citer, c'est celui de Warren et de Joyce dans leur dernier titre. On voit bien Warren qui chante en français et on voit bien après Joyce qui reprend dans une langue bouchinengue.
Oui. Alors cet ouvrage, Émile Lanoux, se présente sous la forme encyclopédique. Hein. Vous avez pour chaque jeune artiste une superbe illustration. Vous avez également des textes de musique. Est-ce que vous les avez consultés dans la préparation de ce livre?
Juste avant de répondre à votre question, je voudrais quand même, puisque vous avez parlé des illustrations des photos, je voudrais quand même préciser une chose. J'ai dû mener une campagne qui a duré de nombreuses années pour assister à vraiment tous les concerts publics et même privés à la recherche d'une photo, la photo qui me permettrait justement de, d'illustrer ces artistes, les différents articles, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, la photographie, c'est une passion. Je ne suis pas photographe, c'est une passion. Et pour tous les passionnés de photographie, à un moment, on aimerait bien faire partager, on aimerait bien partager nos photographies. Alors, on a l'exposition qui permettrait de le faire. Mais pour monter une exposition photo, il faut avoir des photos de qualité et puis il faut se trouver dans une position dans laquelle on vous facilitera la tâche. Donc moi, je n'ai pas cette possibilité-là. Donc, je me suis proposé de faire mon exposition dans le livre. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, comme je vous le disais, moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai arpenté toutes les scènes, le Zéphyr, l'Ancre, les scènes privées. Ce qui fait que j'ai fini par lier certains liens avec les artistes. D'autant plus que je leur faisais parvenir les photos que j'avais prises. N'est-ce pas? Donc, il a été facile pour moi de les contacter pour leur demander l'autorisation d'utiliser leurs photos. Tout en précisant une chose concernant la propriété intellectuelle, la photo n'appartient pas au sujet, la photo appartient au photographe. Par politesse, il convient de convenir avec l'artiste pour qu'on utilise la photo. Ouais. Mais alors, la photo appartient au photographe.
Il y a même une partition, peut-être qu'il y en a d'autres, hein, mais là je suis...
Il y en a deux.
Une partition de Piquet Djouk. Alors justement, le Piquet Djouk, Émile Lanou, est-ce que ce terme ou ce style ne pourrait pas résumer à lui seul l'identité de la musique guyanaise?
Non, c'en est une. Mais il n'y a pas que ça. C'en est une. C'en est une qui a du mal à s'imposer.
Qui est quand même très populaire.
Mais paradoxalement, elle a du mal à s'imposer dans la mesure où, par rapport à son passé, par rapport à son histoire, les gens l'associent au carnaval. Et ce qui est fort dommage, parce que le Piquet Djouk, c'est une invention guyanaise, c'est une illustration du génie des musiciens guyanais qui, comme je vous le disais précédemment, qui ont voulu sortir des carcans, n'est-ce pas, sortir de l'hégémonie de la musique antillaise et de la musique internationale, pour faire une musique qui est la leur, une musique qui exprime, n'est-ce pas, tous leurs sentiments.
Et à côté du Piquet Djouk, qu'est-ce que l'on pourrait citer comme autre style caractéristique de notre musique?
Eh bien, en ce moment, les musiciens guyanais ont compris, n'est-ce pas, ce que les aînés n'avaient pas compris, que la musique traditionnelle, c'est l'âme d'un peuple. Et aujourd'hui, les musiciens ont compris que s'ils veulent aujourd'hui présenter une musique populaire guyanaise, ils doivent absolument puiser dans la musique traditionnelle guyanaise. De ce fait, les mélodies de la musique traditionnelle guyanaise, alors je m'entends, hein, je parle particulièrement pour les créoles. Les mélodies sont exploitées et surtout le tambour. Alors je reviens à ce que je vous disais précédemment concernant la trilogie. Les trois peuples amérindiens, créoles et bushinengués, dans cette trilogie sont réunis autour du tambour. Le tambour, c'est l'instrument fédérateur de la musique guyanaise. Alors, vous me répondrez que chez les Amérindiens, le tambour n'est pas aussi évident. Je vous répondrai que c'est vrai. Cependant, il y a le Samboula Kalinya. Chez les Arawak, il y a également un tambour et chez les Palikour. Donc, ces trois communautés, ces trois peuples, n'est-ce pas, sont unis autour du tambour. Donc, les créoles mettent en avant cette idée. Et vous avez, par exemple, pour compléter ce qu'on disait, à part le Piquet Djouk, vous avez Robert Dédé et Daniel Vincent. Ce sont deux musiciens avant-gardistes qui sont allés très loin dans leur conception. Robert Dédé a mis en place ce qu'il a appelé la musique traditionnelle colorée. La musique traditionnelle colorée, comme son nom l'indique, c'est la musique traditionnelle. Et la couleur dont il parle, eh bien, c'est une couleur qu'il emprunte aux harmonies du jazz. N'est-ce pas? Robert Dédé, c'est un très grand musicien et, comme tous les avant-gardistes, il n'est pas toujours compris, n'est-ce pas? Mais il fait avancer la musique, il fait évoluer la musique, il donne à la musique traditionnelle une autre couleur, comme il le dit, une autre sonorité. Et vous avez, juste pour terminer, vous avez également Daniel Vincent, qui lui, alors Daniel, Robert Dédé travaille particulièrement sur le Kaseko. Et vous avez Daniel Vincent qui, lui, travaille sur le Belia. Il en a même, il a même mis au point un rythme qu'il a appelé le Beliot.
Alors, vous parliez au cours de, au début de notre entretien de cette unité qui est chère à vos yeux, cette unité guyanaise, mais quand on feuillette votre ouvrage, on voit que la majorité des artistes, ce sont quand même des créoles. Hein. Il y a une très faible représentation des Bushinengués, des Amérindiens. Où sont-ils ou, est-ce que...
Alors, je vous dirais, monsieur Plaisir, si vous aviez pris le temps de bien lire le titre, vous verriez que je suis conforme avec ce que je dis. Vous verrez en sous-titre, il est écrit « La musique créole populaire ». Est-ce que vous comprenez l'histoire? Moi, je ne suis pas amérindien. Je ne suis pas bushinengué. Je ne peux pas parler pour les amérindiens ni pour les bushinengués. Cependant, pour bien faire comprendre le principe que je défends, je ne peux pas dire que la musique guyanaise, c'est cet ensemble formé par les amérindiens, les créoles et les bushinengués, pour ne parler dans mon ouvrage que des créoles. Donc, je parle des amérindiens. Je parle des bushinengués, mais je ne suis pas le porte-parole des Amérindiens, ni celui des bushinengués. Il y a suffisamment d'Amérindiens pour présenter leur musique. Il y a suffisamment de bushinengués pour présenter leur musique. Pour que l'ouvrage ne soit pas en contradiction avec le principe que je défends, vous verrez qu'il y a un chapitre qui est consacré à la musique amérindienne, la musique traditionnelle amérindienne, et à la musique traditionnelle bushinengué.
Monsieur Émile Lanoux, nous arrivons quasiment au terme de cet entretien. Comment la musique peut-elle être utilisée comme facteur d'émancipation pour le Guyanais, pour la Guyane? On sent qu'il y a une volonté de plus en plus d'autonomie. Bon, là, c'est presque politique, mais est-ce que la musique peut jouer un rôle à ce niveau-là également, au niveau politique?
Mais absolument, et tout est politique. Et vous remarquerez que beaucoup d'artistes, sans pour autant être engagés... Alors ça, c'est un vrai problème, c'est dommage que nous n'ayons pas le temps d'aborder cela. C'est un vrai problème qui se pose dans la définition...
Mais je vous réinviterai, vous inquiétez
oui,
pas.
C'est un véritable problème qui se pose dans la définition de la musique engagée, de la musique à texte. Bon, moi j'allais faire une synthèse parce que les mots n'ont pas les mêmes consonances chez nous. Alors pour revenir à ce que vous disiez, oui, les musiciens guyanais ont trouvé un exutoire dans la musique. Pour quelle raison? Je vous le disais précédemment, pendant longtemps, pendant de très nombreuses années, et aujourd'hui encore, mais dans une moindre mesure, pendant longtemps, la musique guyanaise a été sous, je ne dirais pas l'oppression, mais disons, il y avait une... le terme m'échappe, mais enfin, il y avait une emprise de la musique antillaise sur la musique guyanaise. Et cette emprise a été favorisée par la radio et l'arrivée des disques. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Avec l'arrivée particulièrement de la radio et avec l'arrivée des disques, eh bien, la radio ne jouait que parce qu'il n'y avait pas de disques guyanais ou très peu. Vous avez en Martinique ou en Guadeloupe, je crois en Guadeloupe, vous avez la maison d'Eps, qui enregistrait des disques. Et il était aisé pour les artistes antillais de produire un disque.
Qui a fermé du reste.
Et ces disques-là étaient déversés sur la Guyane, qui les avalait sans rien dire. Eh bien, il s'est trouvé un moment, n'est-ce pas, qu'on ne pouvait pas, un orchestre, ne pouvait pas prétendre à avoir un public quand il animait un bal s'il ne jouait pas avec précision ce qui était joué à la radio. Et les musiciens n'avaient pas d'autre solution que d'acheter les fameux 45 tours, à l'époque.
Bien sûr.
Pour eux, les apprendre et les jouer, n'est-ce pas? Donc, il a fallu, on a eu, n'est-ce pas, je crois dans les années 80, hein, si ma mémoire est bonne, même si un peu avant, dans les années 50, il y a Yvan Rolus qui avait créé une édition, une petite édition, mais la grosse édition, c'était la 3S Sonoclair avec Sénélis, Sinclair et Sébéloué. À partir de ce moment-là, on a commencé à avoir des disques. Après, il y a Danny Play qui a mis en place les disques. Donc, les Guyanais avaient besoin, d'affirmer leur identité, de rejeter. Et tout à l'heure, on parlait du Piqué Duke. Mais le Piqué Duke, c'est également ça. Avant le Piqué Duke, les balles de carnaval en Guyane étaient animées par les musiques des Antilles. Les titres de Barrel Copette, qu'est-ce qui me vient à l'esprit encore, Fernand Donatien, c'était ces morceaux-là qu'on jouait dans les balles chez Nana, par exemple. Et quand les mécènes sont arrivés, dans les années 80, ils ont fait la révolution, les mécènes, on ne s'en rend pas compte. Aujourd'hui, on considère les mécènes comme un orchestre banal. Mais c'est un orchestre qui devrait être reconnu à sa juste valeur. C'est l'orchestre des mécènes qui a sonné, pas la révolte, mais qui a sonné le moment où il fallait se prendre en compte. Et c'est à ce moment-là, on a vu, il y a un morceau particulièrement qui est sorti dans les années 82, qu'on appelle « Mésentente », d'ailleurs. Et c'est à partir de « Mésentente » qu'en 86, je crois, Piqué Duke est sorti. Et si vous écoutez les deux morceaux, vous allez voir qu'il y a des similitudes. C'est très important. C'est à ce moment-là que les musiciens guyanais se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire autant, sinon mieux, que les Antillais. Et aujourd'hui, vous savez que les musiciens guyanais, concernant la période dans les bals Paris masqués, les musiciens guyanais sont capables de jouer toute une nuit avec leur propre composition. C'est ça. C'est ça le côté, la révolution, le côté identitaire qui libère. Le côté politique, c'est là qu'il faut le voir.
Un ouvrage à découvrir, à lire et à offrir. Différents aspects de la musique guyanaise, de la musique créole populaire, paru aux éditions Émile Lanoux, qui en est également l'auteur. C'est un ouvrage grand public qui ne s'adresse pas uniquement aux universitaires. C'est vrai qu'à vous écouter, on prend énormément de plaisir parce que c'est un sujet que vous maîtrisez et vous en parlez avec fluidité, avec aisance, et on sent aussi quelqu'un de passionné qui au-delà de ça a envie de partager, de faire passer un message. C'est, au-delà du livre, c'est cela qu'il faut comprendre, hein, Monsieur Lanoux.
Oui, je vous disais en préface, je dis bien, c'est le point de vue d'un musicien militant.
C'est ça, militant et passionné. Parfait, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Cette émission est à retrouver en radio, en multidiffusion, sur Cayenne, sur 107.6 et sur Saint-Laurent-du-Maroni, sur 89.2 et sur l'ensemble des réseaux sociaux en vidéo. Monsieur Lanoux, encore une fois, merci et à bientôt.
C'est moi qui vous remercie. À bientôt.